speaker is Stephanie Rabardin.
Bonjour. L'objet de mon intervention est donc la protection des artistes-interprètes selon le droit français. Mon plan sera le suivant. Tout d'abord, un bref historique de cette protection. Puis nous verrons quels sont les artistes protégés, donc la définition de l'artiste-interprète qui est soumis à cette protection. Les droits patrimoniaux, en deuxième point. Troisième point, le droit moral, une spécialité française. Et enfin, les exceptions aux droits des artistes-interprètes. Donc, tout d'abord, bref historique. La protection des artistes-interprètes a commencé, je dirais, avec la jurisprudence. Il y a un arrêt très célèbre en France, qui est l'arrêt Furtwängler. La Cour de cassation avait permis à l'illustre chef d'orchestre allemand de s'opposer à la fabrication non autorisée de disques à partir de son interprétation. De cet arrêt, la Cour de cassation disait « il y a atteinte aux droits de l'artiste sur l'œuvre que constitue son interprétation ». Donc finalement, c'est la première fois qu'on a voulu protéger un artiste. Le problème était le suivant, est-ce qu'on donnait à cet artiste un droit d'auteur, donc une protection par le droit d'auteur, ou est-ce qu'on créait autre chose qui pouvait être le droit voisin? Deuxième arrêt important, l'arrêt Spedidam. La Spedidam est une société de gestion collective qui gère les droits des artistes musiciens français. Dans cette affaire, un disque, un phonogramme, avait été radiodiffusé et sans que l'autorisation des musiciens ait été demandée. Et donc la Spedidam, représentant les musiciens, avait actionné une action contre ce radiodiffuseur. Or là, la Cour de cassation a eu une position assez étrange puisqu'elle a dit « la protection de l'artiste musicien par le droit d'auteur n'existe pas ». Donc déjà, elle réfutait, contrairement au droit anglo-saxon, la protection des droits des artistes par le droit d'auteur. Et elle rajoutait quelque chose, l'autorisation expresse de l'artiste pouvait être ici remplacée par les usages professionnels. C'est-à-dire qu'elle considérait que, habituellement, lorsqu'il y avait radiodiffusion de phonogrammes, on ne demandait pas l'autorisation des artistes, c'était l'usage professionnel, que donc il fallait appliquer cet usage professionnel. Vous voyez donc qu'on avait une jurisprudence incertaine et on sentait bien qu'il y avait une protection des artistes qui était nécessaire, mais on ne savait pas comment l'organiser. Heureusement, est intervenue pour nous la loi du 3 juillet 1985 qui consacre le droit voisin et donc reconnaît aux artistes une protection. Cette loi aujourd'hui est codifiée dans un code que l'on appelle le code de la propriété intellectuelle. Et les droits voisins en sont traités au livre 2. Ça, c'est pour les gens qui souhaitent retrouver les différents articles que je vais citer. Donc, premièrement, quels sont les artistes protégés? Qu'est-ce qu'un artiste? Quelle est la définition de l'artiste? La loi dispose, à l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute manière une œuvre littéraire et artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette. Donc, un comédien est un artiste, un chanteur est un artiste, un marionnettiste est un artiste, mais aussi un acrobate. En vérité, sont exclus les figurants. Et là, la loi nous renvoie aux usages professionnels. Ainsi, en matière cinématographique et théâtrale, est considéré comme un figurant une personne dont le texte ne dépasse pas 13 lignes. Donc voilà pour les artistes protégés. Deuxièmement, les droits patrimoniaux. Nous verrons successivement les droits reconnus, en premièrement. Deuxièmement, deux cas particuliers, deux aménagements de la loi. Troisièmement, la durée de protection. Et enfin, les sanctions. Donc tout d'abord, premièrement, les droits reconnus sont soumis à l'autorisation de l'artiste, la fixation de sa prestation, la reproduction de cette fixation, la communication de cette prestation au public, et enfin, le droit d'utiliser séparément l'image et le son de sa prestation. Donc, quatre droits reconnus, la fixation, la prestation, la reproduction, la communication publique et l'utilisation séparée d'images et du son. Bien sûr, il existe des aménagements. Dans deux cas notamment, la loi a prévu que l'autorisation de l'artiste n'est pas nécessaire. Et ce sont deux cas assez importants. La première, et c'est très intéressant pour nous, concerne l'œuvre audiovisuelle. La loi précise, lorsqu'il y a un contrat, notamment un contrat de travail, entre l'artiste et le producteur, en matière d'œuvres audiovisuelles, ça ne marche pas pour les œuvres sonores, il y a une présomption de cession des droits de l'artiste aux droits du producteur. Cela signifie que le producteur n'a pas besoin de demander l'autorisation de l'artiste lorsqu'il veut fixer la prestation de l'artiste, la reproduire et la communiquer au public. Pour ces trois droits-là, dès lors qu'il y a un contrat, aucune autorisation particulière n'est demandée à l'artiste. Donc déjà, le droit d'utiliser séparément l'image du son est exclu. Ça signifie, si vous avez une œuvre musicale comme un opéra dans vos archives audiovisuelles et que vous voulez, à partir de la bande-son, faire un disque, vous serez obligé de demander l'autorisation de l'artiste. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas demander l'autorisation de l'artiste, en revanche, qu'il ne faut pas le rémunérer. La loi prévoit que pour chaque utilisation, le producteur devra verser à l'artiste une juste rémunération. Cette rémunération est fixée en France par des conventions collectives, donc qui sont négociées entre les syndicats des artistes et les syndicats de producteurs. L'intérêt de cette présomption de cession, c'est que la loi a prévu que cette disposition était rétroactive, à savoir la présomption de cession s'applique aux contrats passés entre l'artiste et le producteur, ces contrats même lorsqu'ils sont passés antérieurement à la loi. Il y a une règle française qui est que la loi s'applique à partir du moment de son entrée en vigueur. Ça signifie que la loi notamment de 85 est entrée en vigueur le 1er janvier 86. Donc en principe, selon le droit français, tous les contrats passés entre l'artiste et le producteur après 86, la loi était applicable. Avant 86, elle ne l'était pas. Donc ça posait un problème, notamment pour toutes nos archives. Donc le législateur est intervenu en disant que cette disposition était rétroactive. Donc l'intérêt, c'est que vous, producteur, titulaire d'archives, dès lors que vous avez, enfin quand vous êtes français bien sûr, dès lors que vous avez un contrat avec votre artiste, vous êtes titulaire de ces droits. Et la loi est allée plus loin, puisqu'elle explique que cette présomption de cession s'applique aussi au mode d'exploitation exclu. Alors qu'est-ce qu'on entend par mode d'exploitation exclu? C'est tout d'abord les modes d'exploitation non prévus à l'époque. Vous imaginez que sur les archives de 1900, qui datent de 1950, que vous voulez aujourd'hui exploiter par vidéogramme du commerce, cette exploitation n'existait pas à l'époque. Grâce à cette loi, grâce à cette disposition, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de l'artiste, vous pouvez exploiter. Et deuxièmement, elle s'applique aussi au mode d'exploitation expressément exclu. J'entends quoi? Il y a une affaire célèbre où il y avait un contrat qui avait été passé, c'était pour une retransmission musicale d'un concert, entre France 3, donc qui est une chaîne publique française, et des musiciens. Et dans le contrat, il était précisé que France 3 avait le droit simplement de diffuser une fois cet orchestre sur sa chaîne et ne pouvait pas donc le céder ou l'exploiter sur d'autres chaînes de télévision française. Ce contrat était antérieur à 86, à l'entrée en vigueur de la loi, et France 3 a décidé de faire jouer la présomption de cession et surtout sa rétroactivité, et l'a cédé à Antenne 2, une autre télévision publique. Et le juge a donné raison à France 3. Donc finalement, il faut voir qu'en matière d'archives audiovisuelles, on a, je dirais, de la chance, entre guillemets, puisque vis-à-vis des artistes, le producteur est investi des droits de l'artiste et aucune autorisation particulière n'est obligatoire dès lors qu'il a passé un contrat. En revanche, s'il n'y a eu aucun contrat entre l'artiste et le producteur, l'artiste reste titulaire de ses droits. La deuxième exception, deuxième aménagement plutôt de la loi, c'est la licence légale en matière de phonogrammes du commerce. En effet, la loi dispose, lorsqu'un phonogramme est utilisé à des fins de commerce, l'artiste ne peut s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, ni à sa radiodiffusion. Donc, ce qui va nous intéresser ici, surtout, c'est la radiodiffusion. Lorsque c'est un phonogramme mis en vente dans le commerce, la jurisprudence considère qu'il doit être mis à la disposition du public dans un nombre d'exemplaires suffisant. L'artiste ne peut s'opposer à ce que l'œuvre soit radiodiffusée, c'est-à-dire diffusée par voie hertzienne avec repli simultané sur le câble. Sont concernées essentiellement ici les radios et les télévisions hertziennes françaises. C'est assez important et ça a été un petit peu, je dirais, une révolution en droit français, puisque la licence légale est quelque chose plus anglo-saxon que latin. Et cette disposition a été introduite pour faciliter la communication publique des disques et notamment de la musique, qui on sait aujourd'hui est le genre d'œuvre audiovisuelle le plus diffusé. Donc voilà pour les deux aménagements de la loi. Donc quelle est la durée, troisièmement, quelle est la durée de protection des artistes-interprètes? La durée est de 50 ans à compter de la première communication au public de l'œuvre. Donc par rapport au droit d'auteur français, on voit qu'elle est beaucoup plus courte, puisque en matière de droit d'auteur, c'est 70 ans maintenant, excusez-moi, après la mort de l'auteur. Là maintenant, c'est simplement 50 ans à partir de la première communication au public. Donc au niveau des archives, c'est vrai qu'on s'est posé un petit peu des questions, et le législateur est un peu clair. Toutes les archives, finalement, je parle simplement des droits des artistes, hein, j'insiste. Toutes les archives qui ont été communiquées au public avant 1935, mais il n'y a pas de protection pour les artistes. Après 1935, il y a une protection. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont posés des questions. Oui, mais alors, lorsque c'est une archive qui a été communiquée la première fois au public entre 1935 et 1986, est-ce que pour les utilisations qu'on a fait pendant cette période, on doit rémunérer l'artiste, excusez-moi, on doit lui demander une autorisation, comment ça se passe? Le législateur a essayé d'être simple et a dit que seuls sont concernés par la loi, donc seuls sont protégés les utilisations postérieures au 1er janvier 1986. Heureusement, parce que les sanctions sont importantes lorsqu'on n'observe pas la loi, et ça aurait pu coûter très cher à certains producteurs. Donc, quatrième chose, les sanctions. Quelles sont les sanctions lorsqu'on ne demande pas l'autorisation de l'artiste et qu'elle est nécessaire? Ce sont des sanctions pénales. Sont punies de 2 ans d'emprisonnement à 1 million de francs, la fixation, la reproduction, la communication ou à la mise à disposition du public, la télédiffusion, l'importation ou l'exportation, à titre onéreux ou gratuit, d'une prestation de l'artiste réalisée sans son autorisation, lorsqu'elle est exigée par l'artiste, lorsqu'elle est nécessaire. Donc on peut voir que c'est des sanctions qui sont quand même assez importantes. Et le législateur est allé plus loin, puisqu'il a même introduit une disposition pour que le juge puisse autoriser la fermeture de l'établissement ayant servi à l'infraction. Donc attention, lorsque les producteurs français et distributeurs doivent faire attention, puisque s'ils passent outre l'autorisation de l'artiste et qu'elle était nécessaire, ils peuvent voir leur société fermée. Troisième point, le droit moral. Donc le droit moral, c'est une spécialité française. Déjà avant l'introduction de la loi, le juge français, qui aime bien protéger les auteurs et les artistes, avait reconnu, non pas un droit moral, mais en se fondant sur le droit de la personnalité, un espèce de droit moral, hein, on peut dire ça. Cette affaire concernait Maria Callas. Le juge français avait donné raison aux héritiers de Maria Callas de s'opposer à la reproduction d'un enregistrement de travail qu'elle n'avait pas voulu, de son vivant, porter à la connaissance du public. Et cet arrêt date de 1982. Donc 3 ans avant la promulgation de la loi. On sentait bien déjà que le droit français au moins la doctrine et la jurisprudence, allaient reconnaître ce droit moral. Ne vous affolez pas, il n'y a que les artistes et les auteurs qui ont un droit moral, on ne l'a pas reconnu aux producteurs parce que ce sont des personnes morales. Pardon. Donc, tout d'abord, le contenu. Qu'est-ce que ce droit moral regroupe? Il est un peu plus léger, je dirais, que le droit d'auteur. On a reconnu aux artistes le droit au nom, le droit à leur qualité et le droit au respect de leur interprétation. Donc, tout d'abord, le droit au nom, qu'est-ce que cela regroupe? C'est le droit figuré au générique, le droit d'être sur des jaquettes de vidéogrammes, sur des affiches. Et là-dessus, le juge français est de plus en plus dur. Nous avons eu, ma société a eu un procès il n'y a pas très longtemps, à propos d'une série d'animation française qui est assez vieille, qui date des années 60, assez connue en France puisqu'elle s'appelle Bonne nuit les petits ou Nounours. Et donc ce sont des animations avec des marionnettes, et c'est vrai, sur la jaquette vidéo, donc on a fait l'exploitation vidéo, on a commencé ça en 92, on avait omis de mettre le nom des marionnettistes. Et on a été condamnés parce que nous n'avions pas mis le nom des marionnettistes, qui sont en effet reconnus comme des artistes. Donc il faut faire de plus en plus attention avec ceci. Donc respect de leur qualité, donc pareil, on doit mentionner qu'ils sont artistes, quel rôle ils interprètent, ça c'est surtout sur le générique. Et enfin, respect de leur interprétation. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir ce point, notamment au regard des archives. Il y a deux problèmes qui se posent. Tout d'abord, c'est le problème de la cession d'extraits. Les archives audiovisuelles sont de plus en plus exploitées sous forme d'extraits. Et nous, à l'INA, on fait de plus en plus attention pour que lorsque nous exploitons ces archives sous forme d'extraits et qu'il y a des artistes, leur interprétation soit, leur interprétation soit bien prise en entier. Je m'explique. Un chanteur, on essaye de vendre la chanson en entier. Un comédien, de prendre sa réplique en entier. Parce que, en vertu du droit moral, je verrais très bien des artistes nous intenter des procès sur le fait qu'ils étaient coupés au milieu de leur chanson et donc au milieu de leur interprétation et que ça leur porte un certain préjudice. Il est sûr que c'est le juge qui appréciera, c'est l'appréciation souveraine du juge, mais il y a un risque quand même. Donc nous, en tout cas, l'INA, nous faisons assez attention sur ce point-là. Deuxième problème, toujours sur le respect de leur interprétation, c'est au niveau du matériel. Bien sûr, le matériel que nous avons dans nos archives n'est pas d'une qualité technique aussi bonne que celle que les nouveaux produits que l'on voit sur les chaînes aujourd'hui. Le numérique, c'est assez récent. Simplement, pour certaines œuvres, et là je pense surtout à des opéras, nous avons eu ce problème où le matériel d'origine était à l'origine, je dirais, de mauvaise qualité, et notamment la couleur, avec le temps, était un petit peu passée. Et on a refusé d'exploiter cette œuvre tant qu'elle n'était pas restaurée, d'abord pour le public, c'est sûr, mais aussi, on craignait un petit peu une intervention des auteurs, mais surtout des artistes, et notamment des chanteurs lyriques, sur le fait que leur interprétation, le son n'était pas vraiment excellent, et puis la couleur, malheureusement, avait tourné un peu au sépia. Et donc, pour ces raisons-là, on essaie de faire de plus en plus attention. Donc, voilà les droits reconnus par le droit moral. Maintenant, les caractéristiques. Le droit moral a deux grandes caractéristiques. Il est inaliénable et imprescriptible. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, on ne peut pas céder son droit moral. C'est incessible. Ce n'est pas un droit onéreux. Il ne se vend pas. Il est attaché à la personnalité. C'est un petit peu comme le droit au nom, le droit à l'honneur. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est un droit imprescriptible. Ça signifie que, alors que les droits patrimoniaux pour les artistes interprètes ont une durée de 50 ans, le droit moral, lui, est perpétuel, il est imprescriptible, il ne s'éteint jamais. C'est ainsi que le droit moral est transmissible aux héritiers. Donc, les artistes interprètes pourront à perpétuité finalement exercer leur droit moral. Dernier point, les exceptions des droits des artistes interprètes, elles sont proches de celles des droits d'auteur. Cela signifie, pour ces exceptions-là, l'intérêt c'est qu'on n'a pas à demander d'autorisation, mais surtout que l'artiste ne peut interdire cette autorisation. Donc tout d'abord, ce sont les représentations dans le cercle de famille. Je m'explique, par exemple, je décide de louer un film, une vidéo, et pour la montrer et la regarder plutôt avec ma famille, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation des auteurs, mais aussi des artistes. La jurisprudence est intervenue pour définir ce qu'était le cercle de famille. C'est tout d'abord les amis, les parents, les alliés et leurs relations habituelles. Ne pas considérer comme le cercle de famille une association sportive, des pensionnaires d'une maison de retraite, des amicales d'une association de train et même des collèges. Et ça, j'insiste énormément, puisqu'en France, il y avait une partie de la doctrine, mais surtout une partie des utilisateurs, qui considéraient qu'une classe d'élèves, finalement, ça pouvait être constitutif du cercle de famille. Et cette hypothèse a été écartée par la jurisprudence. C'est une exploitation non commerciale, mais c'est une exploitation. La deuxième chose, c'est bien sûr que les représentations dans le cercle de famille doivent être gratuites. Deuxième exception, ce sont les copies privées. Lorsque j'utilise mon magnétoscope et que je fais une reproduction à partir des émissions qui sont diffusées à la télé, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation des artistes. Il est vrai qu'ils reçoivent quand même une rémunération via la copie privée, et Philippe Bellingard en a parlé ce matin. Troisième exception, qui est assez importante et assez intéressante pour nous, ce sont les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère polémique, critique et d'information. Et c'est là où ça peut être surtout intéressant. Ce qui intervient ici, c'est le souci du respect du droit de l'information du public. Donc, dans ce cadre-là, on peut utiliser de brèves citations, peuvent être utilisées sans l'autorisation des artistes et aussi des auteurs. La jurisprudence est intervenue là-dessus pour définir un petit peu ce qu'on entendait par brève citation, courte citation. Tout d'abord, la source doit être identifiée. Donc le nom de l'auteur, des artistes, du producteur et l'année de première communication au public. Deuxièmement, la définition de la courte citation. Elle doit être courte par rapport à l'œuvre première. C'est-à-dire, imaginons que j'ai une œuvre qui dure une minute, pourquoi pas, et que j'utilise 30 secondes. Eh bien, le juge ne va pas considérer comme c'est une courte citation. Ça, c'est le premier critère. Deuxièmement, la citation doit être courte par rapport à l'œuvre d'accueil. Même chose, j'ai un extrait de 30 secondes que j'insère dans une nouvelle œuvre qui en fait 2 minutes. Pareil, le juge ne va considérer que cette durée est bien trop longue par rapport à... Et donc, ce n'est pas constitutif d'une brève citation. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là. Il y a une jurisprudence récente, notamment à propos des tableaux. Lorsqu'un tableau, en matière audiovisuelle, on pouvait voir des tableaux, et c'est vrai que le tableau restait 2 secondes à l'image. Donc certains producteurs ont voulu faire jouer, diffuseurs ont voulu faire jouer le droit de citation, et le juge français a réfuté cet argument en considérant que comme l'œuvre était montrée en entier, on voyait l'ensemble du tableau, il n'y avait pas de courte citation. Autre exception, les revues de presse et la diffusion de discours destinés au public. Donc là, je pense surtout aux discours politiques qu'on peut avoir dans des l'Assemblée nationale, le Sénat, les discours de nos ministres sont bien sûr des exceptions. Les pastiches, les parodies, les caricatures, ça je pense aussi que c'est bien français. Et puis dernière exception, et ça c'est typique au droit des artistes-interprètes, lorsque la prestation de l'artiste constitue l'accessoire d'un événement constituant le sujet principal d'une séquence ou d'une œuvre audiovisuelle. Il y a un adage français qui stipule que l'accessoire suit le principal. Et là, le législateur considère que lorsque la prestation de l'artiste n'est vraiment pas le sujet principal, c'est-à-dire est secondaire, à la limite on aurait pu s'en passer, à ce moment-là, son autorisation n'est pas nécessaire. C'est une disposition, je trouve, très intéressante. Malheureusement, les avocats ne lisent pas assez la loi. Et il n'y a aucune jurisprudence là-dessus. Et j'espère que bientôt, on pourra voir des exemples sur cette disposition. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, les droits des artistes interprètes français. Et si vous avez des questions, je serai prête à y répondre tout à l'heure.
Thank you, Stephanie.